Complètement à l'Ouest, l'émission qui parle de tout sauf d'immobilier. Présentée par Philippe Boyer, directeur de l'innovation chez Covivio.
Et bienvenue dans cette nouvelle émission de Complètement à l'Ouest, au cours de laquelle et tout au long de cette trentaine de minutes, nous allons parler entreprise, nous allons parler transmission, compromis, écoute, respect, dialogue social, valeur, transition environnementale, mutation du monde du travail. J'arrête là cette énumération car vous l'avez compris, nous allons aujourd'hui cheminer sur une route qui, je l'espère, nous emmènera loin, très loin, sans parler du fait qu'elle doit nous procurer ce recul nécessaire, cette prise de distance qui nous manque si souvent. Je sais d'avance que nos 30 minutes n'y suffiront pas, mais vu la qualité de mon invité, je me doute que notre route, notre chemin, notre voie va nous ouvrir de nouveaux horizons pour essayer de comprendre mieux le monde de l'entreprise. On attribue au poète Lamartine cette assertion « Le réel est étroit, le possible est immense ». Je n'aurais pas dit mieux au seuil de l'émission de ce jour où nous allons tenter de parler de ce réel que l'on peut trouver souvent étroit, étriqué, à l'inverse de tous ces immenses possibles, de toutes ces utopies dont notre société a tant besoin. C'est parti, droit devant, larguons les amarres et cap à l'ouest, complètement à l'ouest.
Complètement à l'ouest, sur Radio Imo et Radio Territoria.
Bonjour Laurent Berger.
Bonjour.
Et un très chaleureux bienvenue au micro de Complètement à l'ouest. Alors s'il était encore besoin de vous présenter, vous êtes l'ancien secrétaire général de la CFDT, première organisation syndicale de notre pays. Vous l'avez été pendant 11 ans, de 2012 à 2023. Et au terme de cette vie syndicale, vous avez ouvert un nouveau chapitre de votre vie en devenant, c'était au début de l'année 2024 je crois, directeur de l'Institut Mutualiste pour l'Environnement et la Solidarité du groupe bancaire Crédit Mutuel. Et je n'oublie pas bien sûr de dire que vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, presque tous, pas tous, mais presque tous, parus aux éditions de l'Aube, notamment au titre de la collection que vous avez créée, La Société du Compromis. Parmi ces ouvrages parus dans cette maison d'édition, il y en a au moins deux que j'ai lus, même dévorés. Pour une société du compromis, c'est un dialogue entre vous-même et le sociologue Jean Viard, qui est paru au mois de janvier 2024. Et puis, c'était il y a quelques mois ce livre au titre énigmatique « Voie de passage » au pluriel, comme s'il s'agissait d'un vade-mecum pour alpinistes, ouvrage qui est en fait un dialogue en fait entre le PDG du géant de la construction Saint-Gobain, Benoît Bazin, et vous-même en tant qu'intervieweur. Et c'est bien sûr de cet ouvrage « Voie de passage » dont nous allons aujourd'hui largement parler. Alors Laurent Berger, je ne vous en veux pas si vous ne savez pas qu'au début de chaque émission, il y a un court extrait sonore, histoire de se mettre dans l'ambiance. Et là, nous allons emprunter, comment dire, ces lignes de crête, ces voies de passage, comme vous l'écrivez, pour nous élever, prendre de la hauteur au sens premier et métaphorique du terme. On l'écoute.
Tu vas la faire par son versant sud. D'abord, gagner le refuge et après, concorder avec Mathis sur le glacier 3 à 4 heures juste pour l'approche, juste pour arriver au pied des difficultés. Il y aura des dangers au-dessus de la tronche, sous les pieds, les crevasses, les séracs, les gars, tout y sera. Et puis, il y aura le passage de l'arrimée. L'arrimée, c'est la toute dernière crevasse entre le glacier et la face en elle-même. Si cette crevasse, elle est vraiment trop ouverte, s'il n'y a pas un pont de neige dessus, s'il n'y a pas un passage, là, les gars, c'est impossible.
Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec le youtubeur Inoxtag.
Pas vraiment.
En tout cas, c'est lui, un jeune homme, 25-26 ans, je crois, qui l'année dernière s'est lancé le défi invraisemblable de gravir l'Everest. Oui, mais d'abord, il devait faire ses preuves, quelque part ses armes, dans les Alpes. Et outre que cette vidéo qui se nomme Kaizen, c'est un terme japonais qui signifie progresser de jour en jour, qui a fait 25 millions de vues, on a entendu son guide le mettre en garde, au-dessus de la tronche, à droite, à gauche, les crevasses, bref, les dangers partout. Et bref, si on n'a pas bien préparé ces voies de passage, on va nulle part. Alors j'ai bien sûr pas choisi cet extrait au hasard, ne serait-ce qu'en lien avec l'ouvrage dont on va largement parler aujourd'hui, « Voie de passage ». La première question que j'aimerais vous poser, Laurent Berger, vous écrivez dans la préface « Face à une société en crise, je vous cite, une démocratie malmenée, des défis écologiques colossaux, il existe bel et bien des voies de passage si l'on sait réfléchir, écouter, construire, décider et se parler ». Deux questions en une pour démarrer cette émission. Est-ce que ce titre « Voie de passage » en référence à l'alpinisme s'est naturellement imposé ? Est-ce qu'il y a eu d'autres titres sur lesquels vous avez, avec Benoît Bazin, travaillé ? Et puis, cette autre question beaucoup plus profonde, presque sociologique ou anthropologique, en tout cas vertigineuse, pour filer là, toujours la métaphore de l'alpinisme, les sociétés dans lesquelles nous vivons désormais, singulièrement la nôtre, la société française, ne sont-elles pas radicalisées au point qu'il existe de moins en moins de voies de passage. en filigrane. Qu'est-ce qu'il faudrait pour reconstruire, pour construire, pour retisser cette société avec un peu plus, allez, j'ose le terme, de fraternité ?
D'abord, ce titre, il s'est imposé assez facilement pour deux raisons. C'est que ça rencontrait une passion de Benoît Bazin, qui est l'alpinisme, en effet. Il aime beaucoup, au-dessus de Chamonix, pratiquer l'alpinisme. Et une expression que j'emploie souvent, que j'ai beaucoup employée dans mon parcours syndical et depuis, qui est la capacité à trouver des voies de passage. Il se trouve que moi, je suis pas un alpiniste, je suis plutôt pratiquant du kayak de mer en Bretagne, donc on parlait pas exactement du même sport. Mais par contre, on s'est accordé sur ce titre parce que c'est bien la façon dont on conçoit les dialogues en entreprise et dans la société, comme finalité de trouver des voies de passage. Et ensuite, la question que vous posez, c'est est-ce que la société telle qu'elle fonctionne, le débat public, etc., permet encore ces voies de passage, et voire même plus que ces voies de passage, ces compromis de la fraternité. Alors d'abord, moi je suis pour que on ne confonde pas l'écume, et là c'est le breton qui parle d'une certaine manière, en tout cas celui qui vit au bord de qui aime aller au bord de l'océan. Faut pas confondre l'écume et la profondeur. L'écume des choses dans le débat public, dans la société, ce serait qu'on voudrait tous se battre, il y aurait une archipélisation de la société, on invective celui avec lequel on n'est pas d'accord, voire on le disqualifie, voire on l'insulte, etc. C'est une réalité d'un débat public plutôt national. Et puis il y a la réalité quotidienne, qui n'est pas faite d'affrontements seulement, qui est faite de coopération, qui est faite d'entraide, qui est faite de projets, de développement de projets. Et ça, on le trouve où ? On le trouve chez les citoyens, évidemment, mais on le trouve dans les associations, on le trouve dans les entreprises, on le trouve dans les collectivités territoriales, bien souvent. Et donc, moi, je crois qu'il existe des possibilités encore dans une société qui est traversée d'intérêts divergents, contradictoires, et c'est le propre de toute société, des capacités de dialogue, d'écoute, de compromis, qui permettent de trouver les voies de passage pour construire du progrès, pour construire, y compris un mot que vous avez employé et que j'aime beaucoup, qui est la grande oubliée de notre devise républicaine, qui est la fraternité. La capacité à construire ensemble du commun et à y aller ensemble en prenant soin les uns des autres.
Alors j'en viens à ce qui fait l'un des axes structurants de votre livre Voies de passage, à savoir l'entreprise, en l'occurrence un grand groupe industriel Saint-Gobain, en la personne, vous le citiez, de son PDG Benoît Bazin, qui explique sa vision de l'entreprise qu'il dirige. Et pour tout vous dire, j'ai perçu moi votre livre comme un plaidoyer, j'allais dire une réhabilitation de l'entreprise en tant que lieu de dialogue, vous le disiez à l'instant, de compromis. Et bien sûr, c'est son objet de création de richesse aussi. Alors vous écrivez dans les toutes premières pages, je vous cite encore, « L'entreprise a une place essentielle à tenir dans les défis de notre temps, les révolutions écologiques et digitales, la solidarité en acte et le renouveau démocratique. » Alors, évidemment, loin de toute considération politique, question un peu abrupte que j'aimerais vous poser. Quelle est aujourd'hui la place de l'entreprise dans l'imaginaire et la vie de nos concitoyens ?
Une place centrale. On passe beaucoup de temps au travail. Et quand on fait toutes les enquêtes auprès des salariés, auprès des travailleurs, leur attachement à leur entreprise est extrêmement fort. Pourquoi ? Parce que l'entreprise, ce n'est pas que la propriété du patron, de celui qui détient le capital. L'entreprise, c'est deux parties constituantes. Le capital et le travail, le capital quel qu'il soit et quelle que soit sa forme. Et donc, les salariés sont attachés à l'entreprise. Il y a quelques années, quand j'étais secrétaire général de la CFDT, il y avait eu un débat totalement surréaliste sur faut-il ou pas aimer l'entreprise. Et on m'avait posé la question dans une matinale radio et j'avais dit, bah, évidemment qu'il faut aimer l'entreprise puisque c'est ce que pensent les salariés et ils y sont attachés. Maintenant, l'entreprise, c'est quoi sa finalité ? Sa finalité, c'est évidemment la production de biens et de services et le tout en étant profitable. Mais l'entreprise a une responsabilité. Elle a une responsabilité à l'égard de ses parties constituantes, et donc une responsabilité à l'égard du travail, et de la façon dont il s'exerce, dont il est respecté, dont il est rémunéré, dont il est valorisé. Et puis, l'entreprise a aussi une responsabilité dans la société, à travers ce qu'on a appelé la RSE, la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. On a tout un tas de vocables qui peuvent exister. Mais en tout cas, elle a une responsabilité à l'égard de ce qu'on peut appeler ses parties prenantes, qui est finalement la société, sous ses multiples dimensions. Et là, je pense que nombre d'entreprises ont intégré cette responsabilité. Moi, je suis aujourd'hui, vous l'avez dit, dans le groupe Crédit Mutuel et en fédéral, il y a 15% du résultat net qui est dédié à un dividende sociétal pour promouvoir des projets environnementaux et solidaires. Donc, c'est extrêmement concret. Mais L'entreprise, elle a donc une responsabilité dans ce qu'elle renvoie à la société, dans la façon dont elle respecte la nature, dont elle respecte aussi ses parties prenantes. Mais l'entreprise, dans la période de crise que nous traversons, elle a une dimension supplémentaire de mon point de vue. Et c'est paradoxal, parce que l'entreprise, c'est pas un espace démocratique. C'est le seul endroit où vous acceptez un lien de subordination pendant un moment donné. Mais pour autant, l'entreprise a beaucoup à apprendre à la société de la démocratie. Mm-hmm. Ou en tout cas, a beaucoup à apprendre au monde politique.
Sur quels aspects?
De la démocratie. Eh bien, tout simplement parce que dans l'entreprise, on poursuit un but commun. Voilà. Deuxièmement, parce que dans l'entreprise, des intérêts contradictoires s'y confrontent. Mm-hmm. Mais qu'on a trouvé les voies, alors pas partout malheureusement, pas dans toutes les entreprises, mais qu'on a trouvé les voies pour y construire des dialogues qui soient fructueux et qui ont pour but de construire le compromis et la voie de passage. Et donc, j'ai tiré cette réflexion-là de deux éléments majeurs qui ont été les deux derniers grands conflits sociaux que nous avons connus.
Les gilets jaunes
et la réforme des retraites. Les deux avaient trait au travail. L'un plutôt sous l'angle rémunération juste du travail et le deuxième sous l'angle plutôt exercice du travail fin de carrière. Eh bien, aucun n'a pénétré profondément dans l'entreprise. Pourquoi ? Parce que dans l'entreprise, on a encore cette capacité de dialogue et de confrontation. Et donc, moi, je pense que les entreprises, elles doivent prendre leur part, y compris dans la démocratie, en développant en leur sein une propre démocratie sociale, un propre dialogue social, y compris un dialogue de gouvernance et un dialogue professionnel, mais aussi en montrant que finalement, quand on a du commun, quand on a des règles dans la façon dont on fait confronter les intérêts divergents, et qu'on a une loyauté dans la volonté d'aboutir, on peut construire du dialogue et du compromis.
Et la notion de confiance également.
Bien sûr, la notion de confiance, mais vous savez, ce qu'on traverse comme période, c'est assez symptomatique. On a une défiance, une crise de défiance. La crise démocratique s'est transformée en crise de défiance. Les politiques n'ont plus confiance qu'en eux-mêmes. Et les Français n'ont plus confiance dans les politiques. Il va falloir qu'on restaure ça, et on le restaure en renvoyant de la responsabilité à des corps intermédiaires, que sont les organisations syndicales, les associations, les collectivités territoriales et les entreprises.
Alors, les 245 pages du livre que je citais, Voie de passage, qui était avec nous en plateau, se déroule sous la forme d'un dialogue au cours duquel vous posez au PDG de Saint-Gobain des questions à la fois très personnelles. J'ai en mémoire cette question sur que faisait sa grand-mère, qui quelque part traduit un peu l'histoire de ce personnage, d'où il vient et quelles sont ses valeurs. Et puis très focus business, notamment sur la stratégie bas carbone de ce groupe. Là encore, deux questions en une, si vous me permettez. Qu'est-ce qui vous a surpris? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce dialogue? Et puis, même si vous connaissez par cœur le monde professionnel, le monde de l'entreprise, pour l'avoir vu sous un angle syndical et aujourd'hui dans le monde de l'entreprise, est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été dites qui vous ont néanmoins fait réfléchir et qui vous ont fait changer de point de vue sur précisément l'entreprise?
D'abord, pourquoi j'ai interrogé Benoît Bazin, c'est ça la question. Tout simplement parce que je voulais montrer que derrière un grand chef d'entreprise, enfin le chef d'une grande entreprise, c'est aussi un grand bonhomme d'ailleurs, il y avait quelqu'un qui avait des racines, qui avait des convictions, qui avait des doutes, et donc j'ai voulu montrer l'homme. Moi, j'aime pas les caricatures. Je pense que certains se caricaturent eux-mêmes, des grands patrons. Mais je voulais montrer qu'il fallait en arrêter avec l'idée que ce serait que des gens avides de leurs propres intérêts seulement. C'est quelqu'un d'extrêmement fidèle à son entreprise et qui a un parcours, qui a une vision pour son entreprise. Et donc, je l'avais côtoyé que deux fois dans un cercle assez restreint, mais quand même avec plusieurs personnes, et j'avais tout de suite vu qu'il y avait une force de sensibilité. Et j'ai voulu commencer par les questions personnelles parce que moi, j'aime bien de savoir tout le temps d'où on parle et d'où sont nos racines, parce que souvent, ça dit beaucoup de choses de la façon dont on peut, y compris, se comporter. Et puis, est-ce que ça a fait évoluer? Vous savez, moi, je ne rentre jamais dans un dialogue si je considère qu'à la fin du dialogue, il faut que je sois indemne par rapport à ce que j'étais au départ. Donc oui, ça m'a pas forcément... Enfin, en tout cas, aujourd'hui, le processus qui est le mien ne me fait pas forcément rechanger radicalement vision de l'entreprise. Mais j'ai découvert que il a une parole extrêmement forte sur les enjeux migratoires. J'ai découvert que il préférait le dialogue avec des activistes dans une COP plutôt que de les salons dorés.
C'était
où on ne dit pas grand chose.
C'était à Glasgow.
Et donc, ouais, c'est voilà. J'ai l'entreprise, elle n'est pas parfaite. Il y a beaucoup encore à faire pour que les dialogues s'opèrent, mais j'ai découvert qu'il y avait voilà, j'ai voulu montrer qu'il y avait des hommes de bonne volonté qui essayaient de le faire et qui à chaque fois, ce que peut-être j'ai découvert et qu'on n'entend pas chez certains de ses pairs à Benoît, c'est que il dit nous et que fondamentalement il faut sans arrêt assumer le jeu quand on est un dirigeant. Assumer son leadership, mais toujours savoir que la capacité à agir, elle répond au nous.
Vous posez un moment la question à Benoît Bazin d'un capitalisme responsable. Donc je vous retourne la question, savoir d'abord capitalisme responsable, est-ce que c'est un pléonasme, est-ce que ça existe, est-ce que c'est une aberration. Et puis vous parlez également à la page 92 face à ce capitalisme financiarisé de court terme, existe-t-il d'autres formes de capitalisme?
Oui, d'abord, quand on regarde la situation mondiale, il y a trois types de capitalisme. Il y a le capitalisme étatique, extrêmement vertical et autoritaire chinois, assez peu soucieux des droits des travailleurs.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Il y a le capitalisme ultra-libéral américain, à peine plus soucieux des droits des travailleurs, pas du tout soucieux des contreparties quand on voit ce qui se passe sur les enjeux environnementaux, sur les enjeux de diversité, etc. aujourd'hui aux États-Unis. Et puis il y a un syndicalisme européen. Et donc l'enjeu, c'est de le faire fructifier. Et le capitalisme responsable, c'est pas du tout un capitaliste qui soit responsable, c'est pas du tout impossible. Ça veut dire un capitaliste qui tienne compte de ses parties constituantes, qui tienne compte de ses équilibres, qui pratique le dialogue social, qui n'oppose pas les enjeux de compétitivité et de partage de la valeur, qui n'oppose pas les enjeux de travail et de bonnes conditions de travail avec les enjeux de compétitivité, encore une fois, etc., qui est respectueuse de sa chaîne de valeur et qui est respectueuse des enjeux, des défis qui nous sont posés. Et les défis qui nous sont posés, c'est la transition énergétique et environnementale, c'est le respect de la biodiversité et des ressources naturelles, c'est la question de la cohésion sociale et de la lutte contre les inégalités, et c'est le fait d'être soucieux de la démocratie. Et dans cette période, c'est extrêmement important parce qu'on voit potentiellement parfois, dans certaines entreprises, une capacité à dire, écoutez, la question démocratique, c'est une question finalement secondaire de nos enjeux économiques. Ben non, c'est complètement, si on fait feu vert vif ce capitalisme responsable, c'est complètement lié.
Intégré. On va marquer une courte pause musicale avec l'écoute d'un morceau que vous avez choisi, Laurent Berger. Il s'agit des belles choses de Gaëtan Roussel. Est-ce qu'il y a un lien entre voie de passage et les belles choses? J'imagine que tout ça se tient quand même.
J'aime bien les belles choses. J'aime bien, et je crois qu'on n'est pas dans une société qui suffisamment regarde ce qu'il y a de bien et de beau. Et le beau, c'est évidemment l'art, mais c'est pas simplement l'art, c'est la vie quotidienne, c'est la capacité créatrice de tout un tas de citoyens, de collectifs humains. Et on n'a pas besoin pour se projeter vers des perspectives utopiques pour construire un monde meilleur, de partir d'un misérabilisme. Il faut aussi regarder ce qui se passe de bien et il faut regarder les belles choses.
Allez, on écoute les belles choses de Gaëtan Roussel.
Toi tu disais c'est pas toujours, tu disais même c'est pas ici. Toi tu disais c'était la nuit, tu disais même qu'il faisait jour. Toi tu disais c'est pas l'amour, tu disais même c'est pas l'envie. Tu disais c'est une pause, un tout petit détour, où parfois chacun dépose ses souvenirs des belles choses, se souvenir des belles choses, se souvenir des belles choses. Toi tu disais c'est pour toujours, puis tu disais c'est pour la nuit. Toi tu disais c'est un secret, avoir le même c'est une idée. Toi tu disais c'est par amour, puis tu disais c'est par ici. Tu disais je te propose un tout petit détour, où parfois chacun dépose ses souvenirs des belles choses, se souvenir 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 des belles choses. Toi tu disais c'est pas toujours, tu disais même c'est pas ici, tu disais c'est une pause, un tout petit détour, où parfois chacun dépose ses souvenirs des belles choses, se souvenir des belles choses, se souvenir des belles choses. Se souvenir des belles choses, se souvenir des belles choses, se souvenir des belles choses, se souvenir des belles choses.
Allez, de retour en studio avec Laurent Berger pour parler de Voix de passage. C'est un ouvrage paru aux éditions de l'Aube. C'est un entretien absolument passionnant entre Benoît Bazin et Laurent Berger. Question d'actualité, évidemment en lien avec les nouvelles technologies, un mot sur IA et travail, vous n'y coupez pas. Faites-vous partie de ceux qui pensent qu'au final, il pourrait y avoir plus de, allez, appelons ça comme ça, plus de casques de recréation d'emplois nouveaux avec l'arrivée de cette technologie?
Ben, je suis incapable de vous le dire. Je sais pas. Je pense qu'on n'est pas nombreux. Il y a pas beaucoup de personnes qui puissent savoir aujourd'hui si ça va avoir plus de conséquences négatives que positives. Ça va radicalement transformer beaucoup de métiers.
Bien sûr.
Et d'ailleurs, il y a deux raisons pour lesquelles on s'en préoccupe et c'est omniprésent dans le débat. Et heureusement que ce soit omniprésent dans le débat. La première, c'est évidemment la rapidité de la transformation.
Bien sûr.
Aucune des révolutions industrielles que les humains ont connues n'a été aussi rapide que celle qui est en train de s'opérer sous nos yeux avec l'intelligence artificielle. Mais il y a une deuxième raison quand même, hein. C'est que ça va toucher des métiers qui auparavant n'étaient assez peu touchés par les révolutions industrielles, en tout cas par l'automatisation, etc., etc. Et comme c'est des métiers intellectuels, peut-être que ça suscite un peu plus d'intérêt que quand mon père était remplacé par un robot pour le soudage, etc. Je dis ça, c'est pas d'amertume dans mon propos, mais simplement pour situer. Et oui, ça va bouleverser un certain nombre de métiers, et la question n'est pas tellement de savoir s'il faut tenir une comptabilité de plus et de moins, c'est d'anticiper. C'est d'anticiper. Et ce qui est dur dans l'anticipation, c'est qu'on anticipe sur des incertitudes.
Bien sûr.
Mais quand même, quand on regarde, par exemple, dans les métiers de la banque, il y aura des évolutions dans les métiers, notamment de la banque de réseau.
Bien sûr.
Mais potentiellement aussi dans les métiers qui donnent des avis ou dans les métiers de l'octroi, qui octroie ou non les crédits et les financements. Et ça, il faut le mettre sur la table. C'est-à-dire que moi, lorsque j'étais secrétaire général de la CFDT, on a fait une enquête sur le devenir, une étude sur le devenir de l'industrie automobile. Il n'y avait aucun des scénarios où il y avait plus d'emplois dans l'automobile.
Il y avait forcément que des destructions, vous dites.
Oui, il y avait des conditions différentes pour le faire. Et il y avait surtout des conditions différentes pour accompagner les travailleurs qui faisaient face à ces évolutions de l'emploi. Et de l'emploi et de leur travail, parce que c'est les deux éléments. C'est pas que l'emploi qui va être affecté, c'est aussi les conditions d'exercice des métiers et donc le travail réel. Et donc, quand on le sait pas, on sait qu'il y a une évolution. Il faut mesurer les effets potentiels, il faut travailler, il faut rechercher. Et en même temps, il faut écrire les scénarios. Je ne connais pas d'autre voie pour le faire de façon apaisée que anticiper et de le faire par la voie du dialogue. C'est-à-dire que, et donc, je me méfie des apprentis sorciers qui vous expliqueront que demain, tout ça va être ultra bénéfique pour tout le monde et qu'ensuite, fermer la porte, il n'y a rien à voir et on s'occupe de tout. Je sais pas exactement comment ça va se passer. Ce que je sais, c'est plus on anticipera, plus on dialoguera et plus on construira des passerelles pour évoluer d'un métier à l'autre quand des métiers seront en voie de disparition ou d'évolution forte. Bah, moins on aura de casse sociale, pour reprendre un terme qu'on emploie des fois dans le vocable français, moins on aura de gens qui seront laissés au bord de la route, et plus on aura une démocratie apaisée. Il faut éviter ce qui s'est fait dans d'autres révolutions industrielles ou évolutions industrielles avec des casses extrêmement importantes parce qu'on a réagi trop tard.
Toujours c'est votre passage, donc.
Oui, bien sûr, et c'est un peu... j'avoue que c'est des fois un peu de ma part, peut-être un peu trop, mais moi je crois au compromis, je crois à la capacité à poser les sujets sur la table. En fait, je pense que notre démocratie, les dialogues et la démocratie en général, elle doit reposer sur plusieurs éléments. La réalité, un regard lucide sur la réalité. Et sur un certain nombre de choses, le regard lucide sur la réalité, il est largement aidé par la science. Donc le respect de la science. S'appuyer sur la réalité et le respect de la science. Ensuite, se tracer une perspective, là où on veut arriver. Et ensuite, accepter qu'il y a des intérêts contradictoires, des visions contradictoires, et trouver les voies de passage pour acter des compromis. C'est-à-dire des moments où on va dire, on va faire comme ça. Et on suit le cap qu'on s'est fixé, et on suit des directions, et là, pour le coup, c'est, s'il y a besoin de mettre trois coups de rame à gauche plutôt que de les mettre à droite parce qu'il y a un peu d'obstacles, on les met, mais on arrive à le faire dans le dialogue. Et donc, moi, je crois à ça. Ça peut paraître naïf dans un monde qui aime bien montrer des acteurs qui se foutent sur la gueule. Moi, je préfère quand on discute.
On va à présent écouter un court extrait sonore et j'enchaînerai tout de suite avec ma question.
Pourquoi t'es pas à ton bureau?
Il était 17h, j'avais fini, je suis parti.
C'est une blague, j'espère.
Ah non, je finis à 17h, donc je pars à 17h.
Tu pars comme ça, sans prévenir?
Mais prévenir qui? Je finis à 17h, point. J'ai pas à prévenir que je m'en vais.
Ah mais d'accord, mais il y avait encore du boulot, en fait, donc c'est pas fini.
Bah pour moi, si. Il était 17h, donc pour moi, ma journée était finie.
C'est vraiment pas pro comme comportement. T'as vraiment pas l'esprit team, quoi. C'est fou.
Mais qui est pro? Je fais mes heures normales et je me casse. J'ai une vie, tu sais. Je te rappelle qu'on bosse dans une entreprise qui fait de la moquette. T'as cru c'était mon goal life?
Donc ton évolution au sein de l'entreprise, tu t'en fous?
Mais évolution de quoi? Au lieu de faire de la moquette, j'ai passé au paillasson, mais je m'en bats les glaouis.
Alors...
Et attends, j'ai rien fait de mal, en plus. Je respecte juste mes horaires.
Ah ouais, donc toi en fait t'es le genre d'employé qui regarde ses heures et tout?
Bah évidemment, on est payé pour les heures sup.
T'es marrant toi.
Bah voilà, donc à quelle heure je bosse gratuitement pour toi en fait?
C'est pas une question d'argent en fait, mais tu marques des points en restant plus longtemps.
Mais des points de quoi?
Bon moi tout ce que je vois c'est que là j'ai besoin de toi et que tu n'es pas là, est-ce que c'est normal?
Bah s'il est 17h passé, ouais c'est normal.
Allez, dialogue savoureux entre un jeune homme et un manager que j'hésiterais pas à qualifier de toxique. Quel est votre regard de syndicaliste, d'homme d'entreprise sur cette génération Z dont on parle beaucoup? Vous en parlez dans vos deux ouvrages et notamment aussi dans l'autre ouvrage que j'ai ici en studio pour une société précisément du compromis, pour laquelle, dites-vous, cette génération, le CDI n'est plus le Graal, voire éventuellement un repoussoir.
Oui, c'est une génération qui a acquis une forme de liberté. Et c'est pas synonyme, c'est ce sens, cet appel au sens, cet appel à une forme de liberté, c'est pas antinomique avec un vrai engagement dans le travail. C'est-à-dire qu'il y a un truc que je supporte pas, c'est de dire que cette génération serait moins impliquée, moins engagée. Moi, j'ai recruté pour l'Institut Mutualiste pour l'Environnement et la Solidarité une cinquantaine de personnes, notamment pas mal de jeunes. Ils sont ultra engagés, ultra sincères. Et puis, mais faut les nourrir, et les nourrir de sens, d'écoute, voilà. Et le défi qui est le nôtre aujourd'hui, c'est pas, je crois, dans l'entreprise de faire travailler des jeunes qui n'en auraient pas envie, encore une fois, c'est faux, c'est de créer le sens du collectif. C'est-à-dire qu'on est, comme dans la société, dans des logiques d'individuation assez fortes, c'est-à-dire la prise en compte de l'individu dans ce qu'il est, dans son identité propre, etc. Et moi, je suis très universaliste, je pense qu'il faut que tout le monde puisse exister dans ce qu'il est, mais je crois aussi que, du coup, il faut créer le sens du collectif. Et donc, le rôle des managers demain, il sera pas le même, il devrait déjà pas être le même. Ça doit être un rôle d'accompagnement des parcours, d'entraînement, d'embarquement, et pas le rôle classique qu'on a parfois attribué aux managers, c'est-à-dire je donne la consigne le matin, j'évalue le midi et je contrôle le soir. C'est fini ce temps-là dans beaucoup d'endroits. Il y a une forme d'aspiration à l'émancipation, à la confiance, qui est plus forte sans doute que l'était dans notre génération, et donc faut en tenir compte.
Alors équilibre, nuance, compromis, engagement, ce sont bien sûr les mots, les maîtres mots qui se dégagent de votre discours aujourd'hui et de votre livre avec Benoît Bazin. Vous écrivez, c'est à la page 112, en parlant notamment du militantisme, qu'un militant c'est quelqu'un qui fait des choses, qui est en conformité avec ses valeurs et qui essaie de donner un peu de plus de sa personne pour aller dans ce sens-là. Est-ce que notre société, vous avez déjà partiellement bien sûr répondu à la question, mais est-ce que la société française irait mieux selon vous si elle comptait plus de militants?
Elle en compte beaucoup. Elle en compte beaucoup quand on regarde l'engagement associatif de tout un tas de personnes, il est extrêmement fort. Et dans mon vocable militant, il y a aussi tous ceux qui donnent du temps aux autres. Moi, j'ai un jeune fils qui fait de l'athlétisme. Il y a quatre animatrices, jeunes filles, d'entre 18 et 21 ans, qui, tous les dimanches matins, prennent 25 gamins et leur font pratiquer de l'athlétisme et leur donnent goût à ce sport. Qu'est-ce qui motive quatre jeunes femmes à venir pendant 2 heures s'occuper de gamins? Je pense que c'est un engagement. Et donc, oui, la société va mieux quand on se préoccupe un peu de ce qui se passe autour de soi et on est prêt à s'y engager pour améliorer les choses. Mais Et quand on regarde les associations, il y a plein de gens engagés dans les associations, même si les associations souffrent malheureusement aujourd'hui d'un problème de financement. Et elles l'ont manifesté d'ailleurs le week-end dernier par un mouvement. Mais moi, je pense qu'il faut donner de sa personne. C'est-à-dire que moi, je crois beaucoup à une société où on renvoie de la responsabilité. C'est un peu comme le management, que vous voulez. C'est, on ne demande pas à des gens qu'on manage de faire ce qu'on leur demande de faire, point barre, et ferme là. On leur demande d'assumer la part de responsabilité qui leur est confiée. Et donc, je pense que dans la société irait mieux si on reconnaissait tous ceux qui lui apportent beaucoup à travers ses engagements, et elle irait mieux si on laissait un peu plus faire parfois ceux qui ont les manettes pour faire au niveau local. Donc moi je crois, c'est un beau mot le militantisme, je suis un produit de ce militantisme, j'ai commencé à militer à 14 ans, et l'avantage d'avoir des militants dans tous les secteurs, des gens qui s'engagent dans tous les secteurs, c'est qu'on appréhende aussi la complexité. C'est un autre élément que j'ai pas dit dans cette interview, il faut accepter la complexité. Parce que la complexité est là, il ne faut pas essayer de la résoudre avec un slogan à la con qui fera juste plaisir à celui qui l'énoncera.
Ni de verticalité, ni trop de verticalité.
Oui, ça, je me suis largement exprimé ces dernières années sur la verticalité. Oui, je ne crois pas à ça, je ne crois pas à la verticalité, je crois à l'intelligence collective.
Laurent Berger, j'aurais encore 65, 70, 1000 autres questions à vous poser, mais le temps file très vite. Et ces deux dernières questions, un peu plus personnelles si vous m'y autorisez, un peu à la façon de Montaigne avec la Boétie, parce que c'était lui, parce que c'était moi, est-ce que vous diriez qu'avec Benoît Bazin, vous étiez fait pour vous rencontrer, vous en avez un peu parlé tout à l'heure. Et puis nous sommes aujourd'hui date d'enregistrement le 15 octobre, jour qui voit la sortie d'un documentaire qui vous est consacré à la lutte notamment contre la réforme des retraites en 2023. Ce documentaire, il a été réalisé par Anne Fontenot et se nomme Le Dernier Compromis. Et pour le leader syndical que vous avez été, que vous êtes toujours d'une certaine manière, engagé très tôt, vous venez de le dire, un mot sur ce documentaire.
Alors d'abord, oui, c'est parce que c'était Benoît Bazin et que je l'avais trouvé singulier, au bon sens du terme. Et je crois qu'il a accepté parce que c'était moi. Et on est, c'est quelqu'un que j'estime et je trouve très, 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 très intéressant. Et ensuite, un mot sur ce documentaire. C'est un document, j'ai été suivi pendant 6 mois dans la dernière partie de mon mandat. Je pensais que ça allait être 6 mois cool. C'était pas été vraiment 6 mois cool. Et il devait sortir en juillet 2023, à peu près. Et en fait, il a été retardé pour différentes raisons liées à la production et il sort maintenant. Dans un moment où l'histoire rebondit un peu. Et je trouve qu'il faut aller le voir, parce qu'il est amusant de constater que quand on n'écoute pas suffisamment, on finit par avoir un effet boomerang, et ça s'appelle la crise démocratique, et que si on veut en sortir, il faut remettre cette capacité d'écoute, de compromis, de partage du pouvoir au centre de la table.
Un très grand merci, Laurent Berger,
merci
d'avoir accepté de venir au micro de Complètement à l'Ouest pour cette 59e émission. Vous êtes l'auteur, le co-auteur de Voix de Passage, on en a largement parlé. C'est un livre paru aux éditions de l'Aube. Il s'agit d'un entretien avec le patron de Saint-Gobain, Benoît Bazin. C'est un livre vraiment humain, réaliste et surtout pragmatique que je vous recommande très chaudement. Complètement à l'Ouest reviendra le mois prochain et d'une certaine façon, nous allons prolonger la discussion de ce jour, notamment sur la question du travail, puisque je recevrai l'autrice Laetitia Vito, qui publie chez Erol L'Atout Âge, 64 clés pour transformer la diversité générationnelle en force. C'est un sujet ô combien d'actualité, à l'heure précisément où les stéréotypes générationnels persistent et conduisent parfois à des situations totalement absurdes. Enfin, je manquerais à tous mes devoirs si je ne prenais pas le temps de remercier nos amis en technique, à la régie, qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, mais qui sans eux, la préparation et la diffusion de cette émission ne serait impossible. Un salut également très chaleureux à Yves Marc en studio. Merci Yves pour ta présence, merci pour ta confiance. Voilà, tout est dit et selon la formule, il ne nous reste plus qu'à garder le cap à l'ouest en l'occurrence et plus précisément complètement à l'ouest. Merci et au mois prochain.
Complètement à l'ouest, une émission à réécouter et télécharger sur les sites et applis de Radio Imo et Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.